Aujourd'hui, Sciences publiques par Michel Albert-Gonti.
Bonjour et bienvenue à tous dans Sciences publiques. Merci d'être avec nous pour ce rendez-vous quotidien des émissions de Sciences sur France Culture. Comme d'habitude, nous vous convions à nous adresser vos réflexions et vos commentaires sur le site de Sciences publiques au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Internet peut-il rester neutre ? Une telle question peut paraître obscure à nombre d'entre vous si vous n'êtes pas familier des débats qui agitent le microcosme d'Internet. Pourtant, elle vous concerne directement. En effet, la neutralité d'Internet désigne l'absence d'intervention des différents acteurs, qu'il s'agisse des gestionnaires des infrastructures, des fournisseurs d'accès ou même des moteurs de recherche sur les contenus et les applications qui se développent sur la toile. En d'autres termes, c'est de la liberté, de la création et de l'innovation sur Internet dont il est question pour les internautes. Cette liberté se traduit par une capacité d'accès égale à tous les contenus des sites Internet, mais également par la possibilité de créer de nouveaux contenus accessibles par tous ou de développer de nouvelles applications sans contraintes et sans contrôle a priori. Internet existe depuis une cinquantaine d'années. En France, son développement ne date que d'une quinzaine d'années. Pourtant, son importance est devenue vitale aussi bien dans la vie professionnelle que personnelle. Ce fulgurant succès dans les pays développés va porter le nombre d'internautes à 2 milliards cette année, soit près d'un tiers de la population mondiale. Ce succès est largement dû au foisonnement des innovations que la liberté de création a rendu possible. Ce constat qui est au cœur de la notion de neutralité est durement ressenti par certaines industries comme celle de la musique. Internet bouscule en effet de nombreux équilibres économiques établis, les monopoles, mais aussi les partis politiques, d'où la tentation permanente d'instaurer un contrôle pouvant prendre de multiples formes. Internet, en démontrant les vertus d'une certaine forme d'anarchie, est insupportable pour la plupart des pouvoirs. Quelles sont aujourd'hui les forces qui peuvent conduire à violer la neutralité d'Internet et quelles sont leurs motivations? Quelles seraient les conséquences d'une disparition progressive de cette neutralité? Comment trouver un équilibre fécond entre certains contrôles rendus nécessaires par l'explosion du nombre d'internautes et le maintien d'un espace de liberté créatif dont l'ensemble des internautes profitent? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui dans Sciences publiques Bernard Benamou, délégué aux usages de l'Internet, au secrétariat d'État chargé de l'économie numérique et au ministère de la Recherche, Daniel Kaplan, directeur de la Fédération Internet Nouvelle Génération, la FING, et Jérémy Zimmermann, cofondateur et porte-parole de la Quadrature du Net. Je vous rappelle que vous pouvez nous communiquer vos opinions et vos réactions sur le site de Sciences publiques sur franceculture.com. Bernard Benamou, bonjour.
Bonjour.
Alors, un premier exercice délicat pour commencer cette émission avec ce premier tour de table. Comment définiriez-vous brièvement cette notion de neutralité d'Internet afin que nous clarifions peut-être pour nos auditeurs ce dont nous allons parler aujourd'hui?
Alors, pour définir l'Internet et sa neutralité, je prendrai appui sur l'une des règles qu'utilisent les acteurs et les ingénieurs de l'Internet. L'Internet se définit de trois manières. Ce sont des réseaux qui utilisent un même protocole, qu'on appelle TCP/IP. Ce sont les ressources disponibles sur ces réseaux, et ce sont les communautés qui constituent ces réseaux. Et en fait, l'Internet, si on le regarde d'un point de vue technique, ce sont des tuyaux, c'est-à-dire en gros toute l'infrastructure technique, des applications, au sens d'application Internet, c'est-à-dire comme le courrier, comme les blogs, comme l'ensemble des applications qui peuvent fonctionner sur le réseau. Et enfin, ce sont effectivement des contenus qui sont élaborés par les utilisateurs de l'Internet, sachant que la vraie nouveauté, c'est que ces contenus peuvent être développés n'importe où et par n'importe qui sur le réseau. Et comme l'a dit très bien le créateur du web, Tim Berners-Lee, la nouveauté a été qu'on peut créer un média mondial, une application qui s'est appelée le web, seul, dans un laboratoire, pour qu'elle devienne par la suite, effectivement, ce que l'on sait, c'est-à-dire le média ayant connu la plus grande expansion ces dernières années, et sans demander d'autorisation à quiconque. Ce qui, pour nous, Français, habitués à des autorisations sur les réseaux, comme ça a été le cas pour le Minitel, où il fallait être adossé à un opérateur, mais surtout adossé pour les créateurs de services un établissement de presse, un organe de presse, c'était quelque chose de très différent. Donc la vraie nouveauté de l'Internet et sa neutralité tient du fait que l'innovation, les contenus, la création, la créativité, vient de l'ensemble des utilisateurs qui ont les mêmes droits et mêmes devoirs sur le réseau. Et donc garder la neutralité, c'est préserver ce paramètre-là de l'équation de l'Internet.
Daniel Caplan, bonjour.
Bonjour.
Donc on peut se demander, après les explications de Bernard Benamou, pourquoi une telle neutralité, après le succès qu'elle a permis de constater dans le développement de l'Internet, pourquoi serait-elle remise en cause? Quel est votre point de vue sur cette question? Pourquoi parle-t-on aujourd'hui de neutralité d'Internet?
Pour commencer, il faut bien avoir en tête, et ça prolongera ce que vient de dire Bernard Benamou, que le terme de neutralité, il est d'une certaine manière relativement récent. C'est pas comme ça que les concepteurs de l'Internet l'ont défini. C'est plutôt le résultat naturel de l'architecture qui a été décrite. L'Internet s'est défini comme étant agnostique vis-à-vis de ses usages. Et il est parti un peu de ce point de vue très original, à l'époque en particulier, que un réseau devait se concevoir pour les usages qu'on n'en connaissait pas. Et la réussite extraordinaire de l'Internet, c'est qu'effectivement, 15 ans après son ouverture commerciale, c'est-à-dire au-delà des communautés de recherche, multiplication par 1 ou 2 millions du nombre d'utilisateurs, multiplication vraisemblablement par à peu près 10 000 du débit disponible par utilisateur, multiplication par quelques milliers du nombre d'applications et de l'exigence de ces applications sur le réseau, ça marche encore. Et somme toute, ça marche même plutôt bien. Donc c'est vrai que la grande difficulté quand on réfléchit à cette question de la neutralité, c'est pourquoi diable un truc qui finalement marche pas si mal poserait-il problème? Alors, il y a quand même un certain nombre de questions qui sont... Il y a des fausses questions, on y reviendra sans doute, mais il y en a un certain nombre qui sont vraies et difficiles. Et elles sont principalement, un tout petit peu techniques, mais elles sont principalement économiques. Et au fond, si on veut essayer de simplifier les choses, pour moi la question principale, c'est celle du fait que petit à petit dans son histoire, l'Internet passe d'une situation dans laquelle, en gros, il ne nécessite à peu près pas d'investissement massif dans les infrastructures de réseau, etc. Donc il ne coûte pas très cher à faire pour les opérateurs, à une situation qui est celle d'aujourd'hui, avec en particulier le très haut débit, la fibre optique, dans lequel, d'un coup, il faut se mettre à investir considérablement, utilisateur par utilisateur. Donc ça coûte plus cher. Les revenus, pour le moment, sont principalement forfaitaires pour les opérateurs. Et donc la question, c'est comment ils gagnent l'argent nécessaire pour financer cela. C'est une simplification extrême de le dire comme ça, mais malgré tout, le cœur de l'équation, il est là. C'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de milliards à consentir, et d'où peut venir cet argent? D'où, évidemment, la tentation économique avant tout, d'essayer d'aller chercher un peu plus haut dans la chaîne de valeur ajoutée les revenus, et ça suppose effectivement d'aller négocier avec des gens qui ont de l'argent à gagner en fournissant des services en ligne.
Jérémy Zimmermann, bonjour.
Bonjour.
Donc, est-ce que vous partagez ce diagnostic de Daniel Caplan?
Alors, sur le diagnostic en grande partie, c'est vrai que la question des investissements sur l'infrastructure est centrale dans les débats autour de la neutralité du net, mais j'aurais aimé, si vous me le permettez, revenir sur ma définition de la neutralité du net, celle que nous défendons. Et avant cela, citer un point de la décision 2980 du Conseil constitutionnel au sujet de la loi Hadopi. On avait dit qu'on éviterait de parler de l'Hadopi, mais
pas du tout, on avait prévu d'en parler un peu plus tard, c'est tout.
D'accord. Je vous en prie. C'est quelque part un trophée que l'on a remporté dans la bataille de l'Hadopi. Le point 12 de cette décision dit « Considérant qu'au terme de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, citation, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Fin de citation, vous aurez reconnu ici la liberté d'expression. Quand l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne, c'est-à-dire Internet, ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d'accéder à ces services. Donc c'est le Conseil constitutionnel qui dit « La liberté d'expression implique la liberté d'accéder à ces services de communication en ligne ». Donc c'est quelque chose d'absolument fondamental, c'est au cœur de nos sociétés, au cœur de nos démocraties. Et c'est bien ça qui est en jeu aujourd'hui avec ces questions de contrôle, avec les questions d'investissement qui sont sous-tendues mais qui ne sont pas aussi importantes à nos yeux que le potentiel de participation démocratique permis par Internet. Et donc ce débat, c'est comment définir la liberté d'accéder à ces services. Et c'est là que je peux en arriver à ma définition. La neutralité du net, c'est quand chacun est libre d'accéder à tous les contenus, services ou applications de son choix. De la même façon, il est en capacité de publier tout contenu, service et application. Ainsi, à partir du moment où l'on s'assure qu'il n'y a pas de discrimination qui est effectuée en fonction de l'émetteur, du destinataire ou du type de données transmises, on peut dire qu'il s'agit d'Internet, c'est-à-dire le réseau universel dans lequel chacun est un pair sur le réseau et a accès exactement au même Internet que tout le monde.
Concrètement, ça veut dire qu'on s'interdit, par exemple, de favoriser l'accès à certains sites au détriment d'autres, c'est-à-dire, par exemple, en améliorant la rapidité avec laquelle on pourrait accéder à l'un par rapport à l'autre, des choses comme ça. Alors, pour être très concret.
C'est un type de discrimination. Voilà, on pourrait dire, par exemple, tel site de vidéo en ligne ira à pleine vitesse là où tel site concurrent, bah, ça passera quand il y aura le temps.
Voilà, en fonction de d'accord, par exemple, avec le fournisseur
exactement.
D'accès.
Justement, on pourrait aussi bloquer certains services. Et là, vous voyez par exemple que les opérateurs de téléphonie mobile, jusqu'à très peu de temps, empêchaient d'utiliser des services de voix sur IP qui permettaient d'avoir des communications internationales à très bon marché pour, évidemment, que les clients achètent leurs minutes de communication internationale très chères à eux.
C'est toujours le cas sur le mobile. Par exemple.
Je crois qu'ils ont supprimé cette restriction.
Les choses commencent à évoluer. En revanche, il y a toujours effectivement des verrouillages sur certains streaming vidéo, certaines solutions de streaming ou certaines solutions de peer-to-peer. Donc, sur le téléphone lui-même, la chose est difficile. Sur les clés 3G, par exemple, là, par contre, on a accès à l'ensemble des ressources. Donc, c'est vrai qu'il y a une crainte nouvelle, et elle est importante, de saturation de la ressource liée au mobile.
Il y a quand même des téléphones mobiles qui ne peuvent pas utiliser Skype aujourd'hui.
Absolument. Absolument.
Et ça, c'est une forme de discrimination.
Crois que c'est les conditions contractuelles des opérateurs ont été mises à jour.
Voilà,
pour
comment ça a évolué? Comment ça a évolué par rapport à ça? Et il est vrai que c'est non pas l'opérateur, enfin, ce n'est pas le constructeur, mais plutôt l'opérateur qui posait problème par rapport à ça. Et maintenant, on voit des conditions qui se libéralisent. Il faut avoir en tête, malgré tout, que contrairement à l'Internet fixe, c'est-à-dire contrairement à l'ordinateur connecté à DSL ou encore mieux à la fibre optique, le mobile connaît des contraintes liées à la nature, je dirais, de la transmission hertzienne, que vous connaissez en radio, qui est limitée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à un endroit donné, vous ne pouvez pas avoir plus d'un certain nombre d'utilisateurs.
Voilà, la ressource est limitée.
La ressource elle-même peut être saturée. Et donc, il est vrai qu'à ce moment-là, et ça a été rappelé à de nombreuses reprises ces derniers temps, on est obligé de pondérer l'impératif d'ouverture avec l'impératif de gestion des fréquences, qui est une prérogative d'État dans nos pays.
Daniel Kaplan, c'est une des choses qu'on met en avant pour justifier ces atteintes possibles à la neutralité du net, c'est-à-dire l'explosion, le succès dont vous avez rappelé les chiffres tout à l'heure, peuvent justement arriver à un stade où on ne peut plus laisser les choses en l'état, vivre leur vie naturellement, où il faudrait intervenir. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez également comme une possibilité et une crainte aussi?
D'un point de vue, je dirais, théorique, en raisonnement d'économiste, on l'imagine bien, c'est-à-dire si effectivement une capacité est saturée, il faut commencer à gérer la rareté. Cela dit, et c'est là où les choses deviennent intéressantes quand on commence à regarder des cas assez concrets. Bernard a raison de préciser que le réseau mobile est beaucoup plus contraint. Sauf que ceci s'appliquerait clairement à la vidéo, qui est très consommatrice, ne s'applique pas en réalité à la voix, qui consomme pas tellement de bandes passantes. Et donc, on voit bien que là, il y a deux types de discrimination. Empêche les gens de se parler par Skype, un logiciel de messagerie instantanée ou en téléphonie sur IP, la motivation est exclusivement économique. La raison, c'est que les communications mobiles en général et mobiles internationales en particulier
sont
extrêmement chères, extrêmement rentables pour les opérateurs, qu'une part de leur modèle économique repose là-dessus et donc que ces dispositifs-là, en les faisant passer dans le forfait donné ou dans le quasi-forfait donné, font disparaître cette source de revenus. C'est tout à fait différent que d'autres applications.
Donc pour préciser juste
ce point, ça crée une pression sur les réseaux.
Le paradoxe, c'est que ces nouveaux téléphones dits smartphones, etc., donnent accès à Internet. Cet accès à Internet fait partie de l'abonnement souscrit, c'est-à-dire c'est une fonctionnalité qu'on a payer à l'abonnement. Et malgré tout, certaines fonctionnalités de cet accès à Internet sont bridées.
Oui, bien sûr, elles le sont. Et à nouveau, là-dedans, il y a des choses sur lesquelles il est facile de discuter d'un point de vue un peu technique, parce que il est incontestable que les opérateurs ne s'étaient pas attendus à l'importance et au succès de l'Internet mobile, notamment depuis l'émergence des générations de téléphones intelligents, de smartphones. Et donc, leurs réseaux sont sous pression, et donc il y a un certain nombre de restrictions qui peuvent se tenir. Mais clairement, là-dedans, vous avez des restrictions techniques et des restrictions économiques. Alors, juste dernier point en une seconde, ceci est beaucoup moins vérifiable aujourd'hui sur les réseaux fixes. La pression, en tout cas, la taille des tuyaux est très largement suffisante, sauf si on va s'intéresser aux tuyaux internationaux qui, par exemple, nous emmènent vers les pays en développement. Mais sinon, la taille des tuyaux est tout à fait suffisante. Et l'ensemble du dispositif tient, et d'ailleurs, ça se verrait aujourd'hui. On a des baisses de qualité, voilà. Mais on n'a pas de rupture majeure de l'Internet. Donc là, on est vraiment principalement dans des discriminations qui sont liées à des motifs économiques, à la fois directs, la logique économique des opérateurs ou des différents acteurs de ce marché, et peut-être un peu plus indirect dont on reparlera, qui tourne autour de la protection des droits d'auteur et d'un certain nombre d'autres choses qui aimeraient que les usages soient moins ouverts et explosifs.
Jérémy Zermamarne.
Alors oui, cette question de la téléphonie mobile est évidemment centrale. Il y a, comme vient de le rappeler Daniel, il y a quelques années, voilà, il n'y avait que de l'Internet fixe qui était globalement neutre et qui était absolument partout. Et l'Internet mobile était marginal et pas neutre du tout. Là, à mesure que les usages vont massivement vers de l'Internet mobile qui, lui, n'est pas neutre du tout, il convient de se poser la question comment on va essayer d'imposer des pratiques vertueuses, ou en tout cas décourager les pratiques nuisibles des opérateurs. Parce que, comme je vous l'ai dit donc, par le point de la décision du Conseil constitutionnel, lorsque l'on restreint la connexion Internet, ce sont potentiellement des restrictions de liberté fondamentale. Comme on l'a évoqué avec le cas de la voie sur IP, sont potentiellement des restrictions à la libre concurrence. Et également, comme ça a été évoqué, c'est potentiellement des restrictions à l'innovation, parce que la neutralité du net garantit que chacun puisse conceptualiser, expérimenter et déployer de nouvelles applications. Et c'est comme ça que des gus dans des garages ont littéralement créé l'Internet et ses nouveaux usages. Donc de telles restrictions sont extrêmement lourdes d'impact sur nos vies, sur nos libertés, sur la capacité d'innovation, etc. À partir de ce moment-là, il convient de déterminer quelles pratiques sont légitimes et lesquelles ne le sont pas, et de donner des outils aux régulateurs pour mettre en œuvre ces règles. Et lorsque des opérateurs se livrent à des pratiques nuisibles, tout simplement avoir les moyens de leur faire changer de comportement. Et en l'état de la législation, nous pensons que ça n'est pas le cas. On a eu récemment une grande bataille autour de cette question à Bruxelles dans les révisions des directives dites du paquet télécom. Il y a un ensemble de mesures qui ont été votées. Nous estimons qu'elles sont absolument pas satisfaisantes, vu qu'elles se bornent à dire, en gros, il faut informer l'utilisateur des restrictions qui a son accès, et une fois qu'il est informé, il n'aura qu'à changer d'opérateur s'il n'est pas content. Ça n'est pas suffisant pour nous.
Bernard Benhamou, alors la problématique, semble-t-il, c'est de renforcer les pouvoirs du régulateur pour éviter qu'il y ait une régulation excessive.
C'est un sujet important parce que là, on touche, le cœur de l'aspect à la fois de régulation et de l'aspect économique de cette question. Fondamentalement, ce à quoi nous arrivons, c'est que la neutralité apparaît aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, comme étant le véritable principe de loi antitrust des réseaux. C'est-à-dire que là où aux États-Unis, il faut quand même rappeler que nous bénéficions, nous Européens, et particulièrement nous Français, d'un territoire beaucoup, beaucoup plus favorable à la compétition en matière de télécom, là où aux États-Unis, dès que vous vous éloignez des très grandes villes, vous êtes quasiment en situation de duopole ou d'oligopole au mieux, et avec des prix, des tarifs de connexion qui sont sans équivalent. Je rappellerai que pendant la campagne Obama, on mettait en avant l'offre disponible pour les Français sur Internet à 29,99€ en leur disant, regardez à quoi vous auriez accès si vous étiez effectivement dans ces pays, là où aux États-Unis l'équivalent coûterait environ 3 fois plus cher. Donc en gros, nous avons un territoire de compétition plus fort, avec un dégroupage, pour employer les termes de ces métiers, qui a permis le foisonnement d'offres d'accès qui ont d'une certaine manière ralenti le processus justement d'entente ou de dérive par rapport justement à ce que l'on donnait à l'internaute. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus difficile d'envisager une entente à 15 ou à 20 qu'elle ne l'est, par exemple, dans certaines villes des États-Unis, à deux, entre le câble opérateur et l'opérateur.
Donc, on serait plus libéraux que les Américains.
Nous avons créé un territoire de compétition qui a éloigné le spectre d'une atteinte massive à la neutralité. Et je pense qu'il faut avoir en tête que la neutralité sur les réseaux fixes est quelque chose qui a été globalement bien préservé, y compris, donc, je parlais tout à l'heure de Tim Berners-Lee, qui disait effectivement que nous avions 10 ans d'avance sur les États-Unis. En revanche, et c'est vrai, sur les réseaux mobiles, nous avons peu d'opérateurs, 3, bientôt 4, et c'est vrai que là, les questions se posent davantage, j'allais dire, en termes justement d'entente possible pour éviter que certains contenus ou certains usages ne puissent se développer, et ça fera à l'évidence l'objet d'une grande attention à la fois parlementaire et de l'État par rapport à ces questions dans les temps à venir.
Je vous rappelle que vous écoutez Science Publique sur France Culture et que nous débattons aujourd'hui de la question « Internet peut-il rester neutre ?» avec Bernard Benamou, délégué aux usages de l'Internet au secrétariat d'État chargé de l'économie numérique et au ministère de la Recherche, Daniel Kaplan, directeur de la Fédération Internet Nouvelle Génération, la FING, et Jérémy Zimmermann, cofondateur et porte-parole de la Quadrature du Net. Alors, on a parlé de la voix sur les réseaux Internet, fameuse voix sur IP qui a connu quelques accros à sa liberté d'utilisation sur les réseaux mobiles. On a parlé aussi, on a évoqué la loi Hadopi et un sondage récent montre que justement le public français n'est pas totalement conquis par cette loi ni par son efficacité envisagée. Alors, puisque c'est un sondage donc réalisé par l'organisme LH2 et le site zdnet.fr qui montre que 47% des Français estiment que la loi Hadopi est inutile en l'état, et contre 54% des internautes, mais en réalité ceux qui sont vraiment convaincus d'un effet positif pour limiter le téléchargement dit illégal, eh bien ne sont que 13 et 14% suivant que l'on prend l'ensemble des Français ou celui des internautes. Donc finalement une perception en tout cas par le public totalement très déséquilibré du côté de la critique ou de l'estimation d'une non-efficacité de cette loi Hadopi qui a fait couler énormément d'encre, qui a demandé beaucoup de travail parlementaire et qui finalement coûte relativement cher, je crois aussi, à mettre en œuvre pour des résultats que l'on attend encore. Il faut dire que c'est très récent, mais qui sont visiblement, qui ne font pas l'unanimité parmi les Français, Daniel Kaplan.
Je dirais le sondage de ce point de vue-là part de lui-même. Alors les défenseurs d'Hadopi pourraient dire que en général les gens ne vont pas
plébisciter des mesures de contrôle.
Ce que ça nous dit.
Par rapport à la neutralité.
Ce que ça nous dit vis-à-vis de la neutralité et peut-être vis-à-vis de l'aspiration qui s'exprime derrière le succès de l'Internet. Il faut se rappeler qu'il y a 15 ans, à nouveau, quand l'Internet s'est ouvert, il y avait d'autres propositions techniques, économiques, solide.
Dans le Minitel.
Non, il n'y avait plus vraiment le Minitel, mais plutôt au niveau de réseau.
Le Minitel existait et existe d'ailleurs toujours, si j'ai bien dit.
Il en reste quelques-uns. Mais plutôt, les évolutions, par exemple, du réseau sur lequel le Minitel s'appuyait, se présentaient comme une proposition qui, terme à terme, au regard de ce qu'on imaginait, ce que seraient les usages, pouvait sembler défendable. Et il y en avait un certain nombre d'autres dans le monde des télécoms. Et l'Internet, à ce moment-là, a gagné quasiment sans livrer bataille. Les autres ont quasiment disparu.
Il y avait des solutions propriétaires.
Il y avait des solutions propriétaires, mais il y avait même des solutions poussées par des organismes de standardisation, par l'alliance des grands opérateurs, etc. On a oublié les noms. Je les rappellerai s'il y a des questions. Mais
dès le départ, on a la tentation de contrôler. Non,
c'était pas seulement une tentation.
Non, mais je veux dire que dès le départ, elle existe.
Mais
elle
c'était pas une. Il faut bien comprendre que c'était pas des gens qui étaient là en disant on va contrôler.
Bien sûr.
C'était beaucoup plus à cette époque-là, et ça continue d'exister, des gens qui disent « Oui, mais pour bien faire ce que nous pensons, qu'on attend de nous, opérateurs, il faut faire telle et telle chose, et il faut que ce jardin soit bien tenu. Et l'Internet, qui connecte 60 et quelques mille réseaux dans des conditions étranges, parce qu'en fait, il suffit effectivement d'obtenir quelques adresses et de respecter quelques protocoles, et puis voilà, roule, on est connecté physiquement au reste. C'est vrai que ça ne répond à aucune de ces contraintes. Ça ne garantit pas le service, ça ne garantit pas la sécurité, il y a des trucs qui marchent plus ou moins de manière bricolée, d'autant que l'architecture fondamentale de l'Internet n'a pas bougé depuis une bonne vingtaine d'années. Donc c'est invraisemblable, ça ne devrait pas marcher. En théorie, ça marche pas.
C'est une aberration.
C'est une aberration qui marche formidablement bien, et donc c'est inacceptable,
donc,
si vous voulez. Mais, cette histoire des réseaux mieux faits pour les usages qu'on en prévoit, c'est celle-là qu'on est en train de voir revenir. Alors là-dedans, vous avez des choses différentes. Vous avez des choses qui vont s'orienter vers la qualité du service. Alors, il faut du temps réel pour la vidéo. Donc, évidemment, on ne peut pas faire comme aujourd'hui, sauf que ça marche finalement pas si mal.
Pour la visioconférence.
Ou pour la visioconférence. Ou pour des choses de sécurité, ou pour de la mobilité, etc. Et ça, on va plutôt dire, on va discriminer des niveaux de qualité, etc. Puis ensuite, on va dire, mais il se passe des choses tout à fait intolérables sur l'Internet, n'est-ce pas? Et donc, là, il va falloir qu'on commence à les regarder d'un peu plus près. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens font? Un petit peu comme si, quand vous preniez votre voiture pour aller sur un réseau routier, on vous disait non, attendez, vous allez faire quoi là? Vous allez voler une banque, embêter quelqu'un, vous bourrer la gueule, etc. Il faut qu'on le demande avant, et puis il faut qu'on vérifie ce qu'ils se disent dans la voiture quand même, s'ils ne changent pas d'avis pendant. Bon, c'est un petit peu ça, cette aspiration. Bon, mais l'important, c'est que si l'Internet a gagné à ce moment-là, c'est probablement pas parce que c'était la meilleure proposition technique terme à terme, c'est parce qu'il répondait à une aspiration à la fois économique, d'une économie qui repose de plus en plus sur l'innovation, et probablement sociale, d'une société qui a besoin plutôt de choix que d'extrême qualité, plutôt de multiplier les relations et les contacts, plutôt d'expression, que de se faire fournir des services formidables uniquement conçus pour elle, qu'elle est censée utiliser. Et cette question-là demeure aujourd'hui au cœur du débat sur la neutralité.
Oui, Jérémy Zimmermann, ce qui est remarquable, c'est cette acceptation d'un partage de la ressource au détriment, finalement, de la qualité générale, mais simplement une acceptation qui a été aussi une des conditions du succès et du développement spontané, on va dire, du web.
Ce que montre cette histoire d'Internet rappelée par Daniel à l'instant, c'est que c'est l'ouverture, le partage de la connaissance, l'absence de contrôle qui ont fait le succès d'Internet. Et c'est extrêmement profond comme modèle. Ça montre que c'est en donnant la capacité aux utilisateurs d'inventer eux-mêmes le réseau, d'inventer eux-mêmes les usages, que l'on arrive aux meilleurs résultats. Et vous évoquiez l'Adopi tout à l'heure. S'il fallait faire un parallèle, un grand écart que l'on va faire ici, je pense qu'il y a des points assez communs, qui est qu'on se retrouve avec des acteurs dominants, que ce soit les producteurs et les éditeurs de musique et de films, ou les opérateurs télécoms, qui ont acquis énormément de pouvoir et d'influence, aussi bien économique que politique, au cours des dernières décennies, qui voient quelque part que le contrôle est en train de leur échapper, qui ont des modèles économiques qui reposent sur le contrôle, et qui se disent, le plus simple dans cette situation, c'est de fermer le robinet. On va fermer le robinet, et au lieu de réinventer ces modèles pour s'adapter à cette ouverture, au partage de la connaissance et à remettre l'utilisateur au cœur des décisions, au cœur des choix, au cœur des processus, on va se dire on va tenter de remettre le contrôle dans la machine. Et donc c'est des absurdités comme Adopi, c'est des absurdités comme les modèles économiques sur la téléphonie mobile, où on va créer des offres basées sur une création d'une rareté artificielle de ressources qui est extrêmement nuisible à l'écosystème même du réseau, qui va aller jusqu'à décourager les investissements dans plus d'infrastructures et des comportements comme ça qui sont profondément attentatoires aux libertés individuelles comme la coupure d'accès, le blocage de contenu et des choses comme ça.
Bernard Benhamou.
Oui. Cet aspect de la une forme d'anarchie qui finalement est très fertile et féconde, mais qui en réalité est insupportable pour pas mal d'acteurs au fond, qui sont nécessaires aussi au réseau.
À chaque étape, à chaque grande étape des médias, on a eu effectivement des personnes qui ont crié au loup et qui ont crié au danger. Je rappellerai qu'il y a plus d'un siècle, lorsque les pianos mécaniques ont commencé à exister, les éditeurs de partitions ont crié « on nous vole notre musique, c'est inacceptable ». Quand on sait que les éditeurs de partitions en question s'appelaient IMI, la même société qui existe aujourd'hui, on comprend qu'il y a une certaine persévérance dans l'idée d'une volonté de contrôle. Mais
l'histoire s'est reproduite avec les magnétoscopes.
Les magnétoscopes qui ont été décrits par l'association du cinéma américain, la Motion Picture Association, comme étant, je cite, « l'étrangleur de Boston de l'industrie cinématographique ». Et on a vu à quel point le magnétoscope a été un renouveau économique pour cette industrie. Donc je crois qu'il y a toujours un temps de latence pendant lequel effectivement les structures établies essayent de créer de nouveaux modèles économiques et on voit à quel point ces modèles sont difficiles à pérenniser dans l'économie d'Internet. L'un des vrais sous-jacents à la discussion sur Adopi était d'aider à créer un attrait pour l'offre légale. Or, le malheur veut qu'aujourd'hui l'offre légale est malheureusement très structurée autour d'acteurs non européens. On pourrait même dire quasiment d'acteurs californiens. Et donc, il est clair que pour nous, l'un des enjeux dans les temps à venir, et ça c'est un des points fondamentaux dont on ne parle quasiment jamais dans le débat sur la neutralité, et je le regrette infiniment, c'est la place de l'Europe dans l'économie numérique. C'est-à-dire que nous avons, grâce au mobile, une opportunité historique de recentrer, de déplacer le centre de gravité de l'économie de l'Internet vers l'Europe. Pourquoi ? Parce que une chose que l'on oublie toujours, on a parlé du mobile, le mobile est une invention en termes de marché européenne. Avec un marché européen du mobile, à plus de 700 millions d'abonnements GSM sur le continent européen, plus de 300 et quelques millions d'abonnements 3G, ce qui veut dire que nous avons un socle bien supérieur en volume, en valeur et surtout en pouvoir d'achat que l'ensemble de nos concurrents, évidemment asiatiques et même américains. Et donc nous avons là les bases pour créer une véritable économie avec des données de proximité, des données géographiques, culturelles, environnementales, qui sont tout simplement les plus demandées au monde, avec des cerveaux que l'on nous vole très régulièrement pour aller travailler au soleil californien. Et donc, il nous faut à tout prix être en mesure de saisir cette opportunité du changement vers la mobilité pour que l'Europe s'avance dans ces domaines. Et là où le danger existerait, serait de verrouiller les positions actuelles autour des géants actuels et d'empêcher, c'est un peu le principe de neutralité, c'est d'éviter que ne se crée un seuil à l'entrée pour de nouveaux petits acteurs afin qu'ils deviennent des grands groupes ou au moins des entreprises de taille européenne. Et précisément, je dirais que c'est pour nous, Européens, c'est l'enjeu principal. Or, on a tendance à disséquer ces questions sous l'angle purement technique ou sous l'angle, je dirais, d'un secteur d'activité, il a été question de la musique tout à l'heure, en oubliant que c'est l'ensemble des industries, y compris le transport, l'énergie, le tourisme, la culture évidemment, qui sont en train de migrer et de muter grâce et avec le réseau. Et donc si on ne fait pas attention à cette dimension-là, je dirais que le débat sur la neutralité sera un débat de plus dans la sphère technique sans qu'il n'ait jamais porté ses fruits sur le plan économique ou politique.
Si je comprends bien votre discours, c'est quand même un diagnostic que Adopi va à l'inverse de ce mouvement.
Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit.
Je traduis pour les auditeurs.
C'est une traduction non autorisée.
Peut-être, mais qui quand même fait sens à mon avis. Et donc, vous n'avez pas l'air donc de penser qu'Adopi va exactement dans le sens de cette créativité.
Je dis que l'une des préoccupations fondamentales que l'on a occultées parce que le débat s'est focalisé sur les mesures de contrôle, c'est évidemment, et ça a été repris encore par le ministère de la Culture récemment, c'est sensibiliser, faire connaître l'offre légale. Tant que l'offre dite...
La faire connaître ne suffit pas, encore faut-il qu'elle soit attractive.
Mais c'est justement l'objet...
Le plan du gendarme comme pédagogie, on a vu mieux.
Attendez. Je rendrai grâce au ministère de la Culture qui a récemment créé une opération pour justement la carte musique, pour faire en sorte que les jeunes aient accès et au moins puissent découvrir ces offres. Il faut être clair, tant que les offres légales étaient trop complexes, trop chères et trop lourdes, et on voit que globalement, on voit un début, une évolution par rapport à cela. Je ne sais pas si certains de vos auditeurs, j'imagine que oui, ont entendu parler des solutions françaises ou européennes chaîne comme Deezer, qui est une solution effectivement musicale intelligente en termes d'accès à, j'allais dire, aux morceaux et d'accès à la musique. Typiquement, c'est ce genre de choses que l'on doit aider à se développer. Pourquoi ? Parce que tout simplement, à l'heure actuelle, le marché est quasi monopolisé pour ce qui est de l'offre légale par Apple avec iTunes. Et si on continue, je rappellerai qu'Apple s'est créé dans les années, à la fin des années 70 en déclarant qu'il ne distribuerait jamais de musique à Apple Records, la maison des Beatles, et ils sont de très loin le plus grand distributeur aujourd'hui. Donc il faut éviter, là encore, d'être naïf en pensant que des acteurs techniques ne peuvent pas avoir une influence politique ou culturelle et faire en sorte que des acteurs européens puissent se développer dans ce domaine.
Daniel Kaplan, on est un peu au cœur de cette notion de neutralité. C'est-à-dire, en gros, la question de fond, c'est de savoir si la neutralité est la forme la plus féconde de, qui puisse être utilisée sur Internet, ou bien si des lois comme celle d'Adopi, en créant un certain contrôle, vont favoriser également quelque chose, un développement, une innovation sur Internet. C'est un petit peu entre ces deux voies qu'il faut choisir.
C'est malgré tout pas si simple.
J'essaie parce désespérément que... de simplifier, mais
non. Mais on va essayer de resimplifier, mais en décomposant un tout petit peu en facteurs. La question de faut-il ou pas lutter contre l'échange de fichiers musicaux n'est pas une question qui a spécialement trait à la neutralité du net. De même que toute une série d'autres questions sur la prévention ou la répression de pratiques illégales ou considérées comme illégales à juste ou pas juste titre, je dirais la pédopornographie, etc., le fait de la combattre en allant chercher dans les ordinateurs de gens qui n'est pas nécessairement en soi une question de neutralité. Ce qui peut revenir...
Mais il n'y a pas d'alternative positive à la pédopornographie.
Non, en l'occurrence, non.
Voilà, donc là, il y a, au contraire, pour la musique, deux solutions.
Il y a alternative au filtrage du net.
On peut lutter, pas lutter contre des pratiques. Ensuite, il y a plusieurs manières de lutter contre ces pratiques-là. Si on commence, en revanche, à dire pour lutter contre certaines de ces pratiques-là, y compris quand, dans le cas de la pédopornographie, la question de la légitimité de cette lutte est évidemment pas posée. Oui, il faut le faire. Si pour le faire, on commence à demander à l'ensemble des professionnels, en gros, de lire au moins assez précisément l'enveloppe de ce qui est échangé, et même d'avoir une petite idée de ce qu'il y a dedans, dans les messages échangés, alors là, effectivement, on est du côté de la neutralité du réseau. On pourrait faire autrement, on pourrait avoir des méthodes d'enquête plus traditionnelles, comme d'ailleurs la police
le
fait.
On n'est pas dans la neutralité, on est à la...
On serait dans le sujet de la neutralité,
oui,
alors que les méthodes traditionnelles d'enquête, je sais pas moi, les policiers qui vont sur les forums, etc.
Voilà, c'est ce qui a été demandé aux opérateurs, donc aux fournisseurs d'accès, c'est-à-dire de devenir d'une certaine forme des auxiliaires de police.
Voilà, et là vous commencez à insérer à l'intérieur du réseau des mécanismes techniques qui vont commencer donc à essayer de savoir ce que les gens se disent. Mais immédiatement, le cheminement va vite à ce moment-là. Si vous commencez à savoir ce que les gens échangent, pas exactement se disent, mais échangent, la première chose, c'est que ça vous coûte cher. Donc il faut que vous trouviez une manière, ça coûte plus cher que de ne pas le savoir. Et donc vous trouviez une manière de faire payer ça. La deuxième chose, c'est que vous vous dites, bah, si je peux savoir ça, je pourrais aussi savoir ça, puis
voilà,
ça, puis ça, puis ça.
Donc on a commencé, c'est difficile en fait.
Et puis du coup, vous vous dites, mais c'est trop bête de m'en servir que pour faire le flic. Alors que je pourrais en plus faire de l'argent avec ça, c'est-à-dire pouvoir dire bah le fait d'accéder à tel service, ça coûte un peu plus cher, ou si vous voulez accéder à tel site à l'autre bout du monde et que j'ai beaucoup de demandes là-dessus, je vais commencer à ajuster un peu le tarif que je vais demander à ce site-là, etc. Donc petit à petit, de ce moment-là où l'opérateur cesse d'être presque un simple fournisseur de tuyaux, je vais passer à quelque chose qui devient un autre Internet où petit à petit on va me dire tel usage n'est pas autorisé, ou à moi, fournisseur de service, on va me demander patte blanche et même un chèque pour pouvoir devenir accessible au monde entier.
Jérémy Zimmermann.
Alors, juste pour revenir brièvement sur ce que disait Bernard Benamou au sujet de l'innovation et du mobile, si on regarde sur ces 15 dernières années, où a été la source d'innovation, on s'aperçoit que ça n'est absolument pas les opérateurs télécoms. Au contraire, parfois, ils ont fait des choix stratégiques absolument lamentables. On se souvient des Bebop et autres
tam-tam et pager comme ça. On se souvient du Minitel. On se souvient d'échecs monumentaux. On est passé
le Minitel qui, en son temps, fut une véritable
innovation.
Il a été
innovant pendant un an ou deux.
Quelques années. C'est d'avoir rapporté énormément d'argent à France Télécom.
Voilà.
Et à
non,
l'État.
Mais
à
là où je voulais en venir, c'est que bon, on pourrait aussi parler du passage des réseaux de GSM à la 2G et à la 3G, alors que le WiMAX arrivait, et donc des investissements massifs qui auraient pu être épargnés. Bref, et tout ça se retrouve à être financé par l'utilisateur. Ce n'est pas les opérateurs télécom qui ont énormément innové. C'est avant tout des microscopiques start-up, des PME, dans le domaine des nouvelles technologies, mais pas que, grâce à Internet. C'est qu'Internet apporte cette capacité d'innovation dont on parlait tout à l'heure, et donc se pose la question, oui, l'innovation dans le mobile, il faut la stimuler, il faut la rendre européenne,
etc. On parle d'innovation de service, on ne parle pas que d'innovation d'infrastructure. C'est bien l'innovation de service sur laquelle l'Europe peut avoir un rôle déterminant.
Bien sûr.
Et c'est bien pour ça que nous lançons d'ailleurs un appel à projets européens dans ces domaines, parce que nous pensons que l'Europe a vraiment son mot à dire dans les services, et pas uniquement sur l'infrastructure, domaine dans lequel elle a prouvé qu'elle pouvait faire.
Et c'est bien permettre à des petits acteurs innovants de le faire en évitant à ce que les opérateurs télécoms, par trop de contrôle, essayent de garder la part du gâteau. Mais tout ça n'était qu'une parenthèse. Ce que je voulais dire ici, c'est que là, on évoquait, sans le nommer, le filtrage du net, le filtrage des contenus, qui va être mis en œuvre dans la loi LOPCI, au nom de la lutte contre la pédopornographie, la loi d'orientation de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, qui va passer en deuxième lecture à l'Assemblée nationale le 23. Et donc, on nous dit, il faut lutter contre la pédopornographie, donc il faut filtrer le net. Alors, sur l'objectif, tout le monde est d'accord, il faut lutter contre la pédopornographie. Mais filtrer les contenus, c'est à peu près l'équivalent de mettre la main devant les yeux de quelqu'un et disant, voilà, vous ne voyez plus le problème, donc il n'y a plus de problème. Le réel moyen de lutter contre la pédopornographie et son commerce, c'est d'attaquer le problème à la source, d'aller faire retirer les contenus en mettant en œuvre des accords de coopération internationale.
Choses qui sont parfois très complexes et on le sait.
Nos collègues allemands, en automatisant l'envoi d'emails, ont réussi à faire enlever 61 de ces sites en 12 heures de façon parfaitement automatique. Donc il y a d'autres façons et nous pensons que la protection de l'enfance est ici instrumentalisée pour justifier la mise en œuvre de ce dispositif. Mais ce dispositif donc de filtrage des contenus au nom de la pédopornographie qui pourrait un jour servir les vues politiques de certains qui aimeraient faire disparaître des blagues sur les Auvergnats et autres vidéos compromettantes d'Internet, c'est exactement les mêmes mécanismes qui sont demandés par les industries du disque et du film depuis des années. Le président Sarkozy leur a promis lors de ses vœux à la culture, en disant « si Adobe ne suffit pas, il faudra aller plus loin, il faudra dépolluer les réseaux et pour cela expérimenter sans délai les dispositifs de filtrage ». Et c'est encore une fois exactement ces mêmes technologies mises en œuvre par les opérateurs lorsqu'il s'agit de restreindre les usages pour créer des modèles économiques basés sur la discrimination. Et toutes ces technologies sont encore une fois rigoureusement les mêmes utilisées en Chine à des fins de censure politique. Donc il y a là un réel problème.
Vous écoutez Science Publique sur France Culture et nous débattons aujourd'hui de la question « Internet peut-il rester neutre ?» avec Bernard Benamou, délégué aux usages de l'Internet, au secrétariat d'État chargé de l'économie numérique et au ministère de la Recherche, Daniel Kaplan, directeur de la Fédération Internet Nouvelle Génération, la FING, et Jérémy Zimmermann, cofondateur et porte-parole de la Quadrature du Net. Alors Bernard Benamou est mort de rire. Je ne sais pas comment le dire autrement.
Je ne me permettrai pas.
Je
reconnais tout le talent rhétorique de Jérémy Zimmermann, même si je n'en partage pas tout à fait les fondamentaux. Disons simplement, il y a un risque de dérive concernant des technologies de surveillance. Ce risque a toujours existé. Ce risque n'est pas nouveau. Je précise, puisque tout à l'heure il était question des opérateurs du réseau, qu'il s'agisse des fournisseurs d'accès ou même des acteurs des services comme les moteurs de recherche, ils sont très régulièrement et très légalement interpellés par les autorités des pays concernés lorsqu'il y a effectivement des enquêtes qui nécessitent de pouvoir effectivement accéder à une adresse IP. Et cela fait partie des choses sur lesquelles effectivement personne ne pose véritablement question. En revanche, la généralisation de ces procédures, le fait qu'elle puisse servir à d'autres buts qu'une simple enquête et qu'elle puisse par la suite être un outil à la fois de contrôle, voire de contrôle politique, voire de contrôle économique. C'est aussi évidemment une interrogation que nous devons avoir. Je n'oublie pas, nous n'oublions pas que, puisqu'il a été question tout à l'heure de pédopornographie, c'est un sujet sérieux dont nous nous occupons beaucoup au sein de la délégation, étant justement en charge des questions liées à la protection des mineurs auprès, dans le cadre du programme européen SAFER. Par définition, c'est un problème d'une effroyable complexité. Tous nos interlocuteurs avec lesquels nous travaillons sur ces sujets se rendent compte de l'incroyable ingéniosité que peuvent déployer les acteurs de ce domaine. Je crois qu'il est des solutions qui peuvent être mises en place. Il n'y a pas de solution d'une totale efficacité dans ces domaines. Et je rappellerai que lorsqu'il est question des risques sur Internet, il n'y a jamais de solution unique. Une solution, et là je reprendrai les termes là encore de Tim Berners-Lee, une solution doit s'appuyer sur un trépied ou un tripode qui est constitué à la fois de solutions techniques, juridiques, mais surtout éducatives et de sensibilisation. Si on n'est que sur l'un de ces pieds, on n'est absolument pas efficace. Donc pensez que là encore, on pourra, face aux risques nombreux qui peuvent exister en termes de vie privée, en termes de contrôle, en termes, j'allais dire, d'opinion, par rapport à ce que nous, Français, considérons comme important, il est évident que ces risques doivent être affrontés sous ces trois aspects et pas uniquement avec une réponse magique de type technique ou juridique.
Alors il est remarquable aussi justement par rapport à cette question du risque que le paiement sur Internet qui a longtemps été considéré comme quelque chose de totalement non sécurisé, qui allait ouvrir la porte à des fraudes terribles, c'est finalement d'ailleurs traduit par un taux de fraude assez important par rapport à l'usage que l'on fait de la carte de crédit, par exemple, en dehors des réseaux, mais ça n'a pas totalement empêché le développement du commerce électronique. C'est ce paradoxe aussi, c'est-à-dire que Internet se développe malgré ses imperfections,
à cause de ses imperfections.
J'allais dire exactement la même chose.
Oui,
bien sûr.
Ou grâce, on va dire.
Oui, bien sûr que c'est grâce à ces imperfections, et c'est ça qui a été effectivement très difficile à comprendre dans les cultures d'ingénieurs de nos grands opérateurs, mais en fait de nos grands corps d'État aussi souvent, qui se battaient à l'époque, il faut se souvenir, et ça continue, on le revoit aujourd'hui dans ce qui s'appelle le réseau Nouvelle Génération, Next Generation Network, qui est un peu l'une des habillages de propositions Internet du futur, qui se battait pour le millième de point de qualité au-delà des 99%. Il est intolérable et dans l'esprit d'un opérateur professionnel qu'une communication puisse se couper dans n'importe quelle circonstance, etc. Et ce qui est, de manière très intéressante, le choix des utilisateurs, c'est en fait de tolérer une qualité moyenne qui reste relativement élevée quand même, mais plus faible.
Enfin, au début d'Internet, les gens étaient quand même extrêmement, les utilisateurs ont été extrêmement patients pour supporter des lenteurs extrêmes.
Les débits étaient très lents.
Les débits, d'accord, mais ça n'a pas empêché quand même petit à petit le nombre d'augmenter, etc. Et finalement d'amorcer la pompe.
Oui, mais l'arbitrage a été fait en faveur du choix, en faveur de la possibilité d'agir, et en admettant le fait que la qualité moyenne pouvait être plus basse, qu'il y avait d'autres valeurs que celle-là. Et effectivement, on le voit aussi dans toute une série d'autres champs qu'on appelle entre guillemets la confiance et qui sont en fait celles des technologies de sécurité, donc de défiance, qu'en fait, il y a fort peu de demandes de la part des utilisateurs et même souvent de la part des commerçants en question. Moi, j'ai regardé ça il y a une dizaine d'années, mais il y a eu une bonne quarantaine de systèmes de paiement les plus sécurisés les uns que les autres qui ont été proposés parfois par des très grands acteurs. Et en gros, pour le moment, celui qui a encore gagné, c'est le premier, parce qu'il était là, parce qu'il était relativement simple à mettre en œuvre.
C'est PayPal.
Non, c'est pas PayPal. C'est le cryptage de base du numéro de carte qui fait que c'est un tout petit peu plus compliqué que de simplement lire le réseau pour pouvoir savoir ce qui s'échange. Alors, ce qui est intéressant justement là-dedans, c'est que du coup, il faut bien considérer que cette question, toujours de la neutralité dont on parle, il faut arriver à la distinguer entre des questions qui vont tourner vraiment autour du contenu et du filtrage, qui sont en fait, dans le débat de la neutralité, relativement récentes. Le débat sur la neutralité aux États-Unis était d'abord un débat sur la qualité de service et d'abord et avant tout un débat économique. Et c'est important parce que les opérateurs, le filtrage, ils ne sont pas demandeurs. En général, le filtrage, c'est quelque chose qui leur est imposé. Alors, éventuellement, si, ensuite, ils essaieront d'en faire quelque chose économiquement, mais si vous demandez à un opérateur, en tout cas, si vous lui demandez en privé, c'était pas vraiment ce qu'on avait envie. En revanche, le débat de la qualité de service. Est-ce qu'il faut être capable de différencier des niveaux de trafic selon que, soit ils sont bien payés ou mal payés, soit qu'ils ont des exigences de débit, de régularité du débit, de temps réel. On peut imaginer une opération à distance en temps réel, une opération chirurgicale. Évidemment, il peut y avoir besoin
de... C'est quand même très ancien. Je crois me souvenir d'une technologie qui s'appelait ATM qui devait permettre justement cette possibilité d'accorder une bande passante privilégiée à tel utilisateur, en fonction d'ailleurs d'un tarif spécial, évidemment. Absolument. Et ATM a totalement disparu de la circulation et du paysage.
Absolument. On a voulu reprendre des systèmes centralisateurs, des réseaux en étoile, comme on en connaissait justement du temps de Minitel, et c'est là où on a commis l'erreur, parce que on parlait tout à l'heure des défaillances ou en tout cas des failles de cette imperfection du réseau qui en fait pour beaucoup l'intérêt, parce que justement il est capable de permettre l'amélioration par l'utilisateur de ce qu'il souhaite en faire. Parce que quand un ingénieur se met en tête de créer une technologie pour tous, ça peut créer de très belles choses, mais ça peut créer Airbus ou ça peut créer Socrate pour la SNCF. Et surtout quand on se met en tête de savoir ce que doit être l'expérience d'un usager par rapport à une technologie, on est toujours dans l'erreur. Toujours. L'ergonomie n'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui s'améliore et qui doit faire la place au retour d'expérience de l'utilisateur.
D'où l'extraordinaire découverte d'Internet, d'avoir découvert que ce sont les utilisateurs qui sont les meilleurs créateurs.
Absolument, les plus aptes à créer les ressources les plus intéressantes pour eux.
Dans la mesure où on leur laisse la liberté.
Absolument. Et un autre point, puisqu'il a été question tout à l'heure de téléchirurgie, dès que l'on parle d'applications dites critiques, d'applications sur lesquelles la vie humaine peut reposer, qu'il s'agisse de l'énergie, qu'il s'agisse de la médecine, qu'il s'agisse d'autres domaines encore, en fait, on crée un faux débat. Parce que ces applications doivent exister, elles existent depuis longtemps, elles ne doivent pas emprunter le réseau public. C'est tout.
Tout à fait.
Après, les vraies questions sera de savoir si on doit améliorer autant que faire se peut la qualité et l'expérience vécue par l'utilisateur en termes d'attente. L'une des particularités de l'Internet étant qu'on ne peut pas prévoir le temps que mettra un paquet d'informations à arriver à son destinataire. Ça en fait partie. Ça ne sera jamais parfait, mais globalement, on a maintenant des systèmes dits de contournement, et on a surtout le fait de ne pas espérer faire sur Internet des choses qui pourront et devront être faites autrement.
Alors, je ne voudrais pas qu'on termine l'émission sans avoir parlé quand même de l'avenir un petit peu du réseau. Et l'avenir du réseau, semble-t-il, passe énormément par l'arrivée massive de l'Asie dans le paysage. On voit aujourd'hui que sur ces 2 milliards d'internautes dont je parlais tout à l'heure, il y a plus de 800 millions de pays asiatiques, d'habitants des pays asiatiques déjà. Et que probablement, donc, quand je dis 800 millions, c'est par rapport à 400, un peu moins de 500 millions pour l'Europe. Et moins de 300 millions pour les États-Unis ou l'Amérique du Nord. Donc ça veut dire déjà qu'aujourd'hui, la présence des internautes asiatiques est très largement majoritaire sur...
On est sur 2 milliards, pas tout à fait.
Mais elle va l'être très rapidement, probablement. La vitesse à laquelle les choses évoluent. Est-ce que pour vous, ça changera quelque chose par rapport au sujet de notre débat d'aujourd'hui, qui est la neutralité d'Internet Jérémy Zimmermann.
Oui, parce que ça dépend si on considère ou non que les citoyens chinois sont connectés à Internet ou non. Pour moi, selon notre définition de ce qu'est la neutralité du net, ils n'y sont pas. Quand on a le gouvernement qui décide quels sites seront accessibles ou quels sites n'y seront pas, la neutralité du net est rompue, manifestement. Donc les Chinois n'ont pas accès à Internet.
Ils ont accès à Chinternet. Ils se trouvent comptabilisés dans les chiffres et qu'aujourd'hui, ils vont devenir majoritaires dans quelques années.
Mais donc se pose la question, est-ce que l'on va, oui ou non, faire le choix politique de laisser le réseau Internet se fragmenter selon la volonté des gouvernements, des opérateurs, qui va dire bah, chez nous, on n'aura pas de voix sur IP, mais on aura de la santé comme si, chez nous, il y aura du YouTube, chez nous, il y aura du Dailymotion, etc. Est-ce qu'on va laisser ce que l'on connaît aujourd'hui comme étant Internet se balkaniser et se retrouver une sorte de constellation de Minitel 2.0 interconnectés vaguement les uns avec les autres? Ou est-ce qu'à l'inverse, on va faire le choix politique de ce réseau universel dans lequel chacun est un pair, dans lequel c'est la majorité des utilisateurs qui décident
de ce qu'est et ce que sera l'Internet. Si oui, il faut garantir la neutralité du net.
Daniel Kaplan, peut-être pour préparer la fin de l'émission, parce qu'on en approche, on s'approche très vite de ce moment.
L'Asie,
sur la Chine, quand même.
L'Asie est importante. Moi, je partage pas l'avis de Jérémy, comme quoi ils sont pas sur l'Internet. C'est évidemment pas tout à fait le même, mais dans toute une série de domaines, si, en fait, c'est le même espace, et ils font partie de la conversation, et ils font en particulier partie des sources d'innovation. C'est le continent d'où vont venir les concepts auxquels on ne pense pas aujourd'hui, et vraisemblablement, comme c'est un continent extraordinairement puissant, innovant, puissant d'un point de vue culturel, il va se passer beaucoup, beaucoup de choses. Cela dit, si on parle d'avenir, il y a une population encore plus importante qui est en train de se connecter à l'Internet, c'est les choses, les objets. Les voitures, les appareils de tout type, les arbres de Paris qui sont équipés de puces, les capteurs, les caméras, etc.
Ces choses n'ont pas une revendication similaire pour la neutralité.
Pour l'instant, en tout cas, elles n'ont pas elles-mêmes de revendication. En revanche, là aussi, ces choses-là vont se connecter. Aujourd'hui, au point de départ, elles se connectent dans des applications très verticales, très pensées. Voilà, j'ai fait un réseau de caméras, un réseau de capteurs le long des voies d'autoroute, etc. Ça sert qu'à ça, sauf qu'évidemment, on se dit c'est quand même trop bête. Ça produit une richesse d'informations extraordinaire. Pourquoi ne pas s'en servir? Pourquoi ne pas la rendre également disponible? Et à ce moment-là, cette question de la neutralité comme source et fondement de l'une des plus extraordinaires plateformes d'innovation dont nous ayons bénéficié dans les dernières décennies et qui, malgré son explosion, sa croissance explosive dans tous les sens du terme, continue de fonctionner, effectivement, elle est reposée là encore. Et je pense que s'il y a une chose que les Chinois et les Asiatiques peuvent attendre de nous, c'est que justement l'Internet reste ce qu'il est, le soit de plus en plus, parce que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir rentrer dans la société mondiale de la connaissance ou de l'information.
Je n'ose pas donner la parole à Bernard Benabou, parce que ce sera pour un seul mot, et je sais que ce n'est pas sa spécialité.
Non, je vais tenter d'être court en disant
très court.
Que la Chine soit connectée à Internet, c'est un fait. Que cet Internet soit terriblement contrôlé, c'est un autre fait. En revanche, c'est à nous, Européens, et je dirais dans notre capacité à innover, à faire en sorte que l'Internet du futur ne soit pas marqué par le contrôle de la censure chinoise. Et c'est vrai que cet Internet des objets peut devenir un terrible outil au service du contrôle.
Très bien, notre débat d'aujourd'hui s'achève. Donc merci à Bernard Benamou, Daniel Kaplan et Jérémy Zimmermann d'y avoir participé. Sur le site de Sciences Publiques, vous pouvez trouver comme d'habitude des références d'ouvrages sur Internet et la neutralité, ainsi qu'une vidéo réalisée par l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms, avec une interview de son président, Jean-Ludovic Silicani, qui a décliné notre invitation à participer à notre débat. Enfin, vous pouvez réécouter cette émission pendant un mois et la podcaster pendant une semaine. La semaine prochaine, justement, vendredi 19 novembre, nous retrouverons le club de sciences publiques autour d'une question qui est très proche, finalement, avec une très grande parenté avec le sujet que nous avons traité aujourd'hui, puisque nous nous demanderons comment le numérique peut-il développer la culture scientifique à l'occasion des assises du numérique qui se tiendront à Paris le 25 novembre. Nous débattrons de cette question avec deux membres du club sciences publiques, Jean-Claude Amezen et Étienne Klein, ainsi que deux invités, Bruno Racine, président de la BNF, et Serge Pélissère, l'organisateur de ces assises du numérique 2010. Sciences Publiques, Luc-Jean Reynaud, Patrick Dupont, Catherine Donnet, Michel Albergantin.